Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
Le racisme, c'est entre autres le sujet du film Soleil haut du cinéaste mauritanien Med Hondo et on en parle aujourd'hui dans cette édition du Club de l'Auditeur, animée par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel, sur les ondes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Bienvenue à toutes et à tous. Et un grand bonjour pour commencer à Luc qui nous écrit de Paris et d'y apprendre assidûment la langue allemande, alors bon courage. Mais aussi à Mohamed de El Hosinia en Égypte, Kamalou de Lomé au Togo, Ousmane de Cotonou au Bénin, Mohamed de Nouakchott en Mauritanie, Hassana de Bandiagara au Mali, Alain d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Junior de Kélo au Tchad et Gloire de Kolwezi en RDC, en les remerciant tous de leur fidélité et de leur intérêt pour nos programmes. Et puis félicitations à Evans et Benjamin, toutes les deux de Loubefou en RDC, puisqu'ils ont fêté ces derniers jours, leur anniversaire. Soleil haut, c'est le titre d'un chant antillais qui compte la douleur des Noirs amenés aux Caraïbes en provenance du Dahomey, du temps des colonies. C'est aussi le nom du film qu'a réalisé le cinéaste mauritanien Med Hondo en 1969. Le réalisateur d'avant-garde qui vit depuis 50 ans dans la banlieue parisienne met en scène des Africains dans une colonie d'Afrique de l'Ouest qui s'alignent devant un prêtre blanc pour être baptisés et renommés. Puis, encouragé par la France, les Noirs coloniaux viennent chercher une vie meilleure en métropole. Seulement voilà, ils sont confrontés en réalité au chômage, à des conditions de vie inacceptables et à un racisme choquant. Et puis il y a la révolte. On y évoque le Congolais Patrice Lumumba, l'Américain Malcolm X ou encore l'Algérien Ben Barka. C'est l'histoire d'une révolte contre une nouvelle forme d'esclavage, d'oppression et la colonisation avec ses conséquences politiques, économiques et sociales. Mais l'auteur dénonce aussi les dirigeants installés au pouvoir dans beaucoup de pays d'Afrique par la France. Le film dans lequel on parle de la peur des Blancs devant l'invasion noire, la façon dont les responsables français ou européens envisagent le processus migratoire et tente de le contrôler, semble plus que jamais d'actualité. Il a été projeté cette année au Festival du film de Cannes dans la sélection Cannes Classics, après avoir été restauré dans le cadre du African Film Heritage Project, né d'un partenariat entre la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, la Film Foundation de Martin Scorsese et l'UNESCO. Osange Silou-Kiefer, journaliste et critique de cinéma et membre du conseil consultatif de la FEPACI justement, je vous propose donc un entretien avec elle au sujet de sa perception du film, juste après ces quelques notes de musique.
Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n'est que l'explicitation émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle, de cette infériorisation antérieure.
Aux anges, Silou-Kiefer, vous êtes de la FEPACI,
oui.
La Fédération panafricaine des cinéastes.
C'est tout à fait ça.
Et la FEPACI est partie prenante dans ce grand projet de restauration des films qui a été lancé il y a 10 ans déjà d'ailleurs par Martin Scorsese, mais plus particulièrement, vous travaillez donc sur les films africains.
Oui, africains dans le sens large du terme, puisque c'est l'Afrique et les diasporas.
Oui.
Et dans le projet de héritage du cinéma africain qui a été pensé par la FEPACI, et nous avons avec la Film Foundation, l'UNESCO et la Cinémathèque de Boulogne fait un partenariat finalisé le 7 juin à New York. Voilà. Et donc Soleil haut est le premier film, le premier d'une liste de 50 films africains et des diasporas qui vont être restaurés.
Alors, c'est beaucoup, 50 films africains. Quels sont vos critères?
C'est beaucoup, 50 films africains, parce que vous pensez que 50 films en Afrique, c'est beaucoup? Ou c'est
non.
Beaucoup de restaurer 50
c'est
films?
C'est beaucoup de restaurer. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un énorme défi, parce qu'il faut retrouver des petits morceaux, des bouts, ici et là, dans différentes archives, si j'ai bien compris.
C'est un travail qui est très compliqué, puisque même si en Afrique, on dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint, on ne pense jamais à conserver des choses, en tout cas pas des choses de ce genre-là. Un film, c'est précieux et la plupart du temps, Ce sont des films qui étaient produits dans la douleur. À la fin de la réalisation même, les réalisateurs étaient fauchés, plus que fauchés. Et ils laissaient le film au laboratoire parce qu'ils ne pouvaient pas payer, même la copie zéro et souvent. Donc on a énormément d'archives éparpillées de par le monde. Donc c'est un travail de fourmi. On est obligé de demander aux uns et aux autres, on est obligé vraiment de faire une quête et de chercher des bouts de films. Il y a des films pour lesquels on a cherché pendant plus de 20 ans. Moi, j'ai un film martiniquais que j'ai retrouvé il y a 3 ans. Je l'ai cherché pendant 20 ans.
Mais finalement, à qui appartiennent ces films? Parce qu'aujourd'hui, on a des copyrights de films, de photos, de tout ce qu'on veut. Ces films-là, est-ce qu'ils ont été protégés au départ? Comme vous disiez que les auteurs étaient fauchés, mais...
De toute façon, dans les films, il y a toujours un visa d'exploitation, donc on dépose quand même. Hein. Un film, c'est comme un brevet de voiture, hein. On ne peut pas partir avec comme ça. Donc le film appartient forcément à la production. La plupart du temps, les réalisateurs étaient les mêmes producteurs. Donc, comme c'est le cas de Medondo a produit tous ses films. Donc, il est le propriétaire de ses films. Et Medondo, il est encore vivant, Dieu merci, j'espère pour un moment encore. Mais pour les réalisateurs, producteurs qui sont morts, ce sont leurs descendants, comme le cas de Samben Ousmane, c'est son fils Alain Samben, avec ses deux autres frères et sœurs qui gèrent, comme c'est le cas aussi pour Paulin Soumaouvira, etc., etc. Donc les films ne sont pas lâchés dans la nature et n'importe qui ne peut pas passer, prendre un bout de bobine et puis décider qu'on va le vendre, par exemple, à la Cinémathèque de Bologne, parce qu'on a entendu dire qu'on cherche à restaurer des films africains. Non, pas du tout. C'est plus codifié que ça.
D'accord. Alors, quels sont les critères de sélection? Parce qu'il y en a beaucoup, des films, mais sachant en effet que c'est un énorme investissement, sur quels critères vous vous basez pour dire, ben voilà, celui-ci mérite d'être rénové?
On s'est basé déjà sur les films qui ont un intérêt historique. Ça, c'était très important. Pas historique dans le cinéma, un intérêt historique de manière globale, historique avec un grand H.
Pour l'histoire avec un grand H, dans le sens du patrimoine.
Voilà. Et aussi des films qui étaient menacés de disparition. Parce que, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a des copies qui sont un peu éparpillées ou des bouts, des briques de choses éparpillées un peu partout. Donc il y a des films qui sont en danger de disparition totale. Donc c'est important de retrouver ces petits chapitres et de pouvoir les remettre ensemble et faire le film comme il était à l'origine. Donc on met l'accent sur les films qui sont vraiment en voie de disparition et les films qui ont un intérêt historique pour l'Afrique et les diasporas.
Alors pourquoi avoir choisi plus précisément ce film-là, Soleil haut de Medondo, tout particulièrement maintenant?
Parce que quand on a décidé de lancer la rénovation d'un film, celui qui correspondait en 2017, parce qu'il y a 47 ans, il a été présenté à la Semaine de la Critique. Et comme on disait au début, que le Festival de Cannes voulait mettre un peu l'accent sur les films qui avaient été présentés à Cannes, faire une espèce d'historique de la présence du monde au Festival de Cannes. Medondo ayant été le premier film à être présenté dans une section à Cannes, on a pensé que c'était bien de le montrer cette année, pour les 70 ans du festival.
Alors, ce film, c'est époustouflant parce que c'est d'une actualité brûlante d'un certain côté, et d'un autre côté, c'est d'un racisme primaire qu'on sent vraiment mal.
Pas le film qui est raciste, hein, c'est
oui, non,
la
non,
vision.
Ce qu'on montre, bien
ce
sûr.
Ce qu'il montre, c'est une dénonciation du racisme ordinaire, hein, qu'on connaît encore aujourd'hui en France. Hein, ça n'a pas disparu, malheureusement.
Oui.
Mais tous les films de Medondo sont comme ça. Quand on connaît l'histoire de Medondo, parce que vous savez, Medondo est mauritanien, et Medondo, il est né esclave. Donc c'est du travail d'arriver à décoloniser sa tête, comme disait Aimé Césaire. Donc il est né doublement colonisé, il est né dans un pays colonisé et d'une ethnie colonisée.
Un problème qui perdure d'ailleurs, par ailleurs.
Bien sûr, mais donc c'est un travail extraordinaire qu'il a dû faire. Donc effectivement, les films de Medondo sont des films qui dénoncent l'injustice, aussi bien l'injustice économique que l'injustice raciale, que l'injustice sociale. Et parce qu'il a subi lui-même et il a forgé toute sa philosophie sur le respect de l'autre. Dans tous ses films, vous voyez ça.
Mais il met aussi méchamment le doigt sur le rôle de l'Église. Il dénonce finalement le rôle de l'Église qui rebâtit, qui veut faire de ces Noirs, des Africains, ainsi de suite, des bons blancs, qui les rebaptise en leur donnant des noms chrétiens.
Mais c'est ce que l'Église a fait.
Oui, oui, bien sûr.
Et c'est ce que l'Église a fait. L'Église a été encore plus loin en disant aux esclaves qu'ils ne devaient pas se rebeller parce que désobéir au maître, c'était désobéir à Dieu. L'Église catholique a une part très, très importante au niveau de la maltraitance de la population négro-africaine. Donc logique que Medondo en parle.
Et en même temps, on voit aussi les Africains s'entretuer et un blanc au milieu qui se frotte les mains finalement, parce que oui, il exploite finalement cette situation.
Diviser pour régner, ça a toujours été le principe de base de la colonisation française. Donc c'est tout à fait normal, étant dans un univers francophone du film, qu'on voit des Noirs s'entretuent, mais pas seulement s'entretuent entre eux. À un moment, quand vous avez un escalier, vous avez un créancier et vous avez un débiteur, et le débiteur qui dit au créancier, il n'y a aucune raison que je te rembourse quelque part, puisque regarde ma peau, elle est plus blanche que la tienne. Donc déjà, il y a ce critère qui existe, mais qui a été créé de toutes pièces. On le retrouve très bien dans Peau noire, masque blanc de Fanon, où le français dit aux Antillais, par exemple, vous n'êtes plus tout à fait noir parce que vous avez la civilisation et vous n'êtes surtout pas nègre parce que le nègre est en Afrique et ils sont quasiment sur les cocotiers.
Vous, vous êtes mieux déjà.
Et nous, on est mieux puisqu'on a la civilisation, donc on est presque blanc. Donc ça crée des populations complètement schizophréniques. Et après, on doit faire un effort extraordinaire, ce qu'Aimé Césaire appelle décoloniser sa tête. Voilà. On est obligé de faire tout ce travail-là pour arriver à dire, moi c'est l'autre. Et je dois autant de respect à l'autre qu'à moi, puisque moi c'est l'autre.
Oui. Mais... Bon. Et il appelle aussi, d'une certaine façon, finalement, ceux qui ont la peau noire aussi à prendre leur distance parce que, vers la fin, on laisse comprendre aussi qu'il y a une certaine responsabilité, pas culpabilité, mais une certaine responsabilité des Africains, par exemple, d'avoir voulu ressembler aux Blancs, à être de bons Blancs ou de bons Noirs aussi.
Dans la mesure où, c'est vrai qu'on peut dire, on est venu en Afrique, on a rapté des gens, des hommes, des femmes, des enfants. On en a fait des esclaves. On leur a complètement retourné l'esprit. On les a déjà dépouillés de tout. Ce qu'Edouard Glissant appelle les migrants nus. On les a dépouillés de tout. Et on leur a, à la place, on a remplacé. C'est comme si, aujourd'hui, là, j'ai une machine, je vous vide votre cerveau et je vous mets dans votre cerveau que vous êtes une chèvre, etc., etc.
Donc, une sorte de lavage de cerveau.
Oui, et pendant des siècles, on a fonctionné comme ça. Bien sûr, après on me dit, et moi-même je le dis, la traite négrière c'est fini, on est peut-être la troisième, quatrième génération. Depuis, nous devons nous-mêmes nous poser des questions et faire notre propre introspection, notre descente aux enfers, comme j'appelle ça, et remonter complètement libre et dépouillé de tout ce qu'on nous a donné, de tout ce qu'on nous a mis, de tout ce qu'on a fait, et nous reconstruire nous-mêmes. Mais ça demande déjà de savoir comment faire, ça demande déjà un certain degré de masochisme aussi, hein, parce que c'est plus facile de dire, bon, je reste comme ça et je dors. Mais de toute façon, il y a eu ce lavage de cerveau, il y a eu cette manière de dire aux gens que... si vous rentrez pas dans cette case-là, vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas un bon français, vous n'êtes pas un bon chrétien, vous n'êtes pas un bon ceci. Au Cameroun, par exemple, le prêtre, il faisait les gens monter sur un vélo. Si les gens tombaient du vélo, il leur disait qu'ils avaient des péchés et qu'il fallait qu'ils aillent se confesser ou on leur donnait pas, on les baptisait pas parce qu'ils n'étaient pas des bons chrétiens. Parce que le mec était tombé de vélo, c'est simplement parce qu'on lui avait jamais appris à faire du vélo.
Bien sûr.
Donc vous voyez, il y a toujours...
Ça demande donc une prise de conscience.
Décalage, oui. Un décalage complet entre ce que les gens vivent dans leur quotidien et ce qu'on leur projette comme vie qu'ils sont censés vivre.
Oui. Hein?
Moi, quand je me regarde dans la glace, si je ne suis pas claire dans ma tête, je me vois blonde aux yeux bleus. Puisque moi, la référence que j'ai, c'est blonde aux yeux bleus. La France, la française, c'est blonde aux yeux bleus. Ma référence que j'ai comme femme, c'est la Vierge Marie. Ben oui, c'est ça que l'Église catholique nous mettait dans la tête. Et si je me regarde bien avec objectivité, je vois bien que je suis ni blonde, que j'ai pas les yeux bleus, et que de toute façon, ça risque pas de m'arriver. Donc il faut que je m'accepte avec mes cheveux crépus, avec ma couleur, et que je montre que je vaux aussi bien qu'une blonde aux yeux bleus.
Bien sûr.
Donc c'est pas une histoire de noirs qui se battent entre eux, c'est qu'on les a conditionnés.
Bien sûr. Ceci étant, on touche aussi l'aspect migration qui est d'une actualité plus que brûlante.
Oui.
Et on voit quand même que ce que, à quoi aspirent ceux qui ont déjà à un niveau, qui peuvent s'en sortir, qui espèrent pouvoir s'en sortir. Leur idée, leur rêve, c'est de venir en France et de vivre finalement bah, comme un Européen, comme un Blanc.
Bah, si on vient en France, c'est pour vivre comme un Blanc, c'est pas pour vivre comme un Chinois.
Mais je veux dire, c'est pas
moi,
de rester au pays et d'essayer de changer.
Comme les Blancs, comme les Français normaux mangent du foie gras.
C'est légitime. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, finalement, c'est pas de rester au pays, d'essayer de développer son propre pays, mais c'est d'aller vivre, finalement, comme les autres, quand même, de s'identifier, de s'assimiler le plus possible.
Bah, c'est ce qu'on nous expliquait, qu'on était blanc, qu'on était français, et qu'on arrivait en France, et que la France est une et indivisible, et qu'on doit se sentir chez nous, donc on veut être chez nous, on veut s'assimiler. Et justement, on nous dit, non, t'es pas chez toi, rentre chez toi. Alors, Robert Liensol le dit à un moment, excusez-moi, mais c'est où chez moi? Puisque pendant 20 ans, on lui a dit que c'était chez lui ici, il arrive, déjà il arrive. Comme disait Virin, qu'au détriment de son plein gré, on le met là et il essaye de vivre, on lui dit qu'il n'est pas chez lui. Donc,
mais oui, mais où c'est chez lui? Mais ça, ce sont des discours qu'on entend aujourd'hui, par exemple en Allemagne, aussi en France et dans d'autres pays européens. Oui. C'est absolument le discours actuel.
Oui.
C'est tous nos enfants vont devenir des dingues, on n'est plus chez nous.
Oui, enfin, on n'est plus chez nous. Bientôt, on ne va plus pouvoir manger notre saucisson tranquillement, on va nous l'interdire, on va voiler nos femmes. Mais c'est un discours qui est fallacieux, parce que c'est un discours politique et un discours qui est... Moi, le racisme... Le racisme qui est juste une manière de manipuler la foule, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème, c'est la Française lambda qui rencontre un négro-africain ou un arabe lambda et qui lui dit « rentre chez toi oui. ». Et si ça se trouve, elle est la troisième génération d'arabes. C'est ça qui est un peu qui est déstabilisant et qui est énervant, parce que nous savons bien tous que les gens de la politique vivent dans une espèce de bulle, qu'ils inventent la vie au fur et à mesure de leurs intérêts. Mais la réalité quotidienne, elle est là, avec votre voisine de palier, avec le mec chez qui vous allez acheter le pain, c'est ça le quotidien. Et donc quand vous rencontrez ce racisme-là, ce que moi j'appelle le racisme ordinaire, chez des gens comme ça, qui vivent avec vous finalement, parce qu'ils profitent de votre travail, celui qui vous loue l'appartement profite du fait que vous lui devez un loyer, etc., etc. Tout le monde...
Tout en vous disant que finalement, on n'a rien contre les étrangers, parce que moi d'ailleurs, j'ai un ami noir
voilà.
Ou je ne sais pas quoi.
Voilà. Mais c'est ce discours-là qui me gêne, c'est le racisme ordinaire qui pose problème, je pense.
Mais d'un autre côté, vous disiez, on adapte selon les besoins, mais finalement, la politique migratoire d'aujourd'hui, elle ne dit pas autre chose que ce dit ce film il y a presque 50 ans, c'est-à-dire qu'on veut former des gens qui vont venir ici d'après nos besoins.
Ben oui,
c'est exactement ça.
C'est la définition de la colonisation, et de la colonisation au cinéma définie en 1929. Il faut que dans chaque village, tous les Africains sentent l'intérêt de porter une chemise en nylon le dimanche. Et une fois qu'on les aura bien formés, on n'aura même plus besoin d'aller là-bas. Eux, ils vont y aller, ils vont faire le job à notre place. 1929.
Et on montre même le mouvement de l'immigration de l'Afrique vers l'Europe. Et puis après, le sens en sens inverse, finalement.
Oui, parce que moi, je veux bien. Quand on dit aux Maghrébins, aux Africains, rentrez chez vous, je veux bien. Mais si les Sénégalais rentrent chez eux, ils disent aux Français, rentrez chez vous. Les Maliens disent la même chose, les Algériens disent la même chose, les Tunisiens disent la même chose. Je veux dire, on serait dans un sacré fourbi quand même.
Finalement, on n'a pas beaucoup avancé en 50 ans.
Je pense que la société a évolué de deux manières. Il y a une partie de la société qui a parfaitement intégré le fait du vivre ensemble et qui le pratique au quotidien. Et il y a une partie de la population qui vit dans la peur qu'on lui prenne le peu qu'il a. Et ceux qui peuvent prendre le peu qu'il a, c'est ceux qui, à son avis, ont encore moins que lui. Donc les nègres et les arabes. Donc on a peur d'eux chez nous parce qu'ils vont me prendre le peu que j'ai. C'est humain aussi.
Alors tout à fait à la fin, on voit des grandes figures d'intellectuels, Lumumba,
des nationalistes.
Oui, des nationalistes, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ce genre de grandes figures, finalement? Parce qu'ils ont disparu.
Oui, on en parle moins parce qu'ils sont vivants. Ces gens, on a commencé à en parler quand ils ont été tués. Bon, pour le moment, on ne les tue pas tous. Le dernier, à peu près, qu'on a tué, c'est Thomas Sankara. J'espère qu'on arrêtera de les tuer, mais nous avons des gens qui sont extraordinaires, que ce soit des musiciens, que ce soit des réalisateurs qui décident de faire des films sur des sujets qui fâchent, que des musiciens qui écrivent des textes, des slameurs ou autres qui font des chansons extraordinaires, et puis comme les mortels, les politiciens. Prenons le cas du Burkina Faso quand même, qui a fait une révolution dans la rue, sans effusion de sang, et qui ont mis à la place un gouvernement en leur disant on a l'œil sur vous, on va vérifier, et le moindre croit qu'on vous remplace. Donc tous les Burkinabés pour moi sont des révolutionnaires parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel.
Même s'il y a encore quelques couacs, enfin bon,
oui, mais
ça freine, par exemple,
parfait,
justement,
si
sur,
parfait,
pour faire la lumière, par exemple,
paradis.
sur la mort de Thomas Sankara, par
exemple. Il restera la lumière à faire. Voilà, mais ceci dit, en France, on n'a toujours pas fait la lumière sur l'enlèvement de mon
de
époux.
Kifa, bien sûr.
Voilà, donc, il y a des choses partout qui... tout ça, c'est perfectible. Hein.
Très bien. Alors, quel est le prochain film qui sera restauré?
Les Bicots Nègres, vos voisins, de Medondo. Et West Indies, qui va être projeté à Bologne en fin juillet.
Et tous ces films seront amenés à être projetés partout, aussi bien en Afrique qu'en Europe, par exemple?
Moi, je pense que il est essentiel. Si on fait la restauration de films, si on fait autant de boulot, ce n'est pas pour aller les planquer dans nos placards. Mm-hmm. Donc, ces films seront forcément montrés dans des festivals, à des moments particuliers, peut-être envisager des ressorties en salle. Oui, moi, je suis
parce
absolument...
Parce qu'en salle, il y a toujours, évidemment, l'impératif économique. Il faut que ça fasse du chiffre d'affaires. Et donc, il y a des films qui ne sont évidemment pas commerciaux, qui sont hautement intéressants, historiquement parlant, ainsi de suite, mais pas forcément commerciaux. C'est pour ça que
oui,
je posais un peu la question.
Oui, mais il y en a des films qui sortent. En France, on produit près de 270 films tous les ans. Il y a des films qui sortent et qui font 4000 entrées. Hein. Donc, on peut bien sortir Soleil Haut et lui permettre de faire 5000 entrées.
Bah écoutez, en tout cas,
à ce moment-là, on se sentira
souhaite.
Vraiment français.
Voilà. Alors, beaucoup de succès et bon courage à vous.
Merci beaucoup.
C'était Ozange Silou Kifa, journaliste, critique de cinéma et membre du conseil consultatif de la FEPACI. Notez que le film Soleil Haut de Medondo a été montré dans de nombreux festivals de cinéma. Il a obtenu le prix Léopard d'or à Locarno en 1970, le prix de la critique internationale à Ouagadougou en 71 et le prix des droits de l'homme à Strasbourg en 1972. Sachez aussi qu'il sera projeté dans le cadre d'un programme de l'Arsenal, Institut pour l'art cinématographique de Berlin, en Allemagne donc, programme intitulé « Cours, cours, camarades, le vieux monde est derrière toi », d'après le slogan des années 68, repris dans le film « Soleil haut ». Ce sera donc à partir du 23 août à Berlin.
La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamisée de l'intérieur, elle est clamée. La plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté.
Voilà, je vous rappelle que vos commentaires, informations et suggestions sont toujours les bienvenus. Si vous voulez m'écrire, envoyez-moi par exemple un mail à l'adresse suivante mireille.drone, D-R-O-2-N-E, @dw.com. Vous pouvez aussi nous laisser des messages écrits ou parler via WhatsApp. Pour vous inscrire, il suffit de taper dw.com/WhatsApp. Et cela vous permettra de recevoir aussi nos informations gratuitement. Je vous invite aussi à consulter notre site internet en tapant dw.com/français-sans-cédille. Vous y retrouverez les émissions du Club de l'Auditeur et tous nos programmes à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. Sur ce, à très bientôt de vos nouvelles. Bonne écoute et bonne fin de semaine à tous. Au revoir.
Donc il est temps de couper ce cordon ombilical, séparer la merde avec le fils de façon radicale. On vit ensemble, séparer la mère et l'alcin. Le fils il a ses gènes, qu'on le veuille ou pas dans le sang. La mère elle a sa vie, le fils il va trouver sa voie. La vie n'est pas facile, on le sait, tous les jours on le voit. La crise accélère la mise à mort du colonialisme. L'impérialisme porte la veste du capitalisme. Le fort écrase de faible, démocratie dans le racisme.
Le raciste, dans une culture avec racisme, est donc normal. L'adéquation des rapports économiques et de l'idéologie est chez lui parfait. Certes, l'idée que l'on se fait de l'homme n'est jamais totalement dépendante des rapports économiques, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, des rapports existants historiquement et géographiquement entre les hommes et les groupes. Les membres de plus en plus nombreux appartenant à des sociétés racistes prennent position. Ils mettent leur vie au service d'un monde où le racisme serait impossible. Mais ce recul, cette abstraction, cet engagement solennel ne sont pas à la portée de tous. On ne peut exiger sans dommage qu'un homme soit contre les préjugés de son groupe. Or, redisons-le, tout groupe colonialiste est raciste.
Et voilà pourquoi ton identité nationale, en fait, c'est bien du racisme, même sous les habits d'intégration, c'est du racisme.